Maintenant, on écoute.
Ce qu'on a vécu, ça va être violent à écouter, mais la moindre des choses, c'est de l'écouter.
Le silence n'a jamais été sans violence.
Sors du silence.
Le silence est une immense violence.
Soyez prêts à écouter, même si ça fait peur, soyez prêts. On l'a vécu, vous pouvez l'entendre.
Il faut que ça s'arrête.
Cet épisode évoque les violences sexistes et sexuelles. Les violences conjugales concernent tous les territoires. Mais en zone rurale, l'isolement géographique, le manque de transport et la proximité sociale peuvent compliquer l'accès à l'aide. En France, près de 50% des féminicides ont lieu dans ces territoires, là où un tiers des Françaises vivent. Dans ce nouvel épisode de Maintenant on écoute, nous faisons le point sur les dispositifs existants. Hébergement d'urgence, centres de santé sexuelle, relais locaux et numéro national d'écoute. La maison Gisèle, à Hasbrouck, dépend de l'association Solfa.
Je m'appelle Magali Durier, je suis chef de service pour l'association Solfa. Et plus spécifiquement, j'ai la responsabilité d'un service donc en ruralité sur la commune de Hasbrouck, dans le Nord. Le service s'appelle Gisèle et c'est un accueil de jour et un centre d'hébergement d'urgence pour femmes victimes de toute forme de violence, avec ou sans enfants.
Et avant de parler de la maison Gisèle, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement aussi l'association Solfa dont vous dépendez ?
L'association Solfa, c'est une association qui est créée depuis 1947. Son siège social est à Lille, dans le Nord aussi. Elle a différents champs d'intervention autour de la protection de l'enfance et plus particulièrement autour de la prostitution des mineurs avec des services d'accueil et d'hébergement pour les jeunes filles qui en ont besoin. On a également un volet insertion professionnelle où on travaille toute la dynamique de l'insertion professionnelle des femmes qui sont hébergées ou accueillies dans nos structures. Et on a aussi tout un volet violences faites aux femmes avec différents services et établissements pour pouvoir accompagner les personnes en fonction de leurs besoins.
Et donc vous êtes chef de service de la maison Gisèle. Est-ce que, enfin, depuis quand cette structure existe et puis quelles sont ses missions principales ?
Oui, bien sûr. Alors, l'accueil de jour Gisèle a ouvert ses portes en 2015. Nous avons souhaité renommer notre service Gisèle, parce qu'avant, il s'appelait Entre Elles, pour rendre hommage à Gisèle Pellicot et également Gisèle Halimi, qui sont des femmes qui ont marqué leur temps, en tout cas, dans les questions qui nous concernent autour des violences sexistes et sexuelles. Notre service donc se compose d'un accueil de jour qui accueille de manière inconditionnelle les femmes victimes de violences, qu'elles soient accompagnées d'enfants ou non, sur nos horaires d'ouverture en journée. Elles viennent à nous, elles se présentent, elles expliquent leur situation et elles viennent chercher un soutien, une aide, un conseil, tout en se sentant en sécurité dans un environnement sécure. Et on a un centre d'hébergement d'urgence. Nous disposons de 16 places sur la commune d'Hasbrouck, 16 places d'hébergement, donc réparties sur 4 logements en diffus sur un principe de cohabitation.
La structure propose un accueil inconditionnel, une évaluation sociale, un accompagnement juridique et un hébergement d'urgence. En milieu rural, un obstacle majeur reste le déplacement.
Il faut savoir que les violences conjugales, notamment, puisqu'on accueille des femmes victimes de toute forme de violence, mais principalement quand même des femmes victimes de violences conjugales, ça touche tous les environnements. Mais celles qui vivent en milieu rural font face à des défis et des obstacles particuliers qui peuvent aggraver parfois leur situation et rendre plus difficile la recherche d'aide. Elles sont vulnérables parce que la ruralité peut amplifier un sentiment d'isolement, un isolement géographique et social notamment. Les habitants, les habitations sont parfois éloignées les unes des autres. On ne peut pas forcément compter par exemple sur du voisinage. Il y a également un isolement géographique, les infrastructures par exemple d'assistance ou les établissements de prise en charge sont éloignés aussi des habitations. Les moyens de transport sont fragiles, je dirais. C'est un frein à la mobilité, hein, au niveau des transports en commun, par exemple. Et ça, c'est vraiment des défis auxquels les femmes sont confrontées, et notamment en ruralité. Mais à contrario, dans des petites communes ou des petits villages, tout le monde se connaît. Et parfois, les femmes, du coup, ont peur de venir dans des structures comme les nôtres, de peur d'être repérées par une personne qui passe en voiture au moment où la personne rentre dans notre service. Et donc, il y a cette crainte aussi d'afficher sa problématique au grand jour.
Pour contourner cet obstacle, l'équipe met en place des permanences délocalisées.
Alors, il nous faut en ruralité, dans le travail social de manière générale, mais en ruralité encore plus, il nous faut être créatif. Il nous faut nous adapter au contexte du territoire où nous sommes implantés, mais également aux besoins de notre public. Nous, notre accueil est inconditionnel. Comme je le disais tout à l'heure, les femmes se présentent à nous comme elles le souhaitent, sur nos horaires d'ouverture. Elles viennent jusqu'à nous, mais à nous aussi d'aller jusqu'à elles, de manière à lever aussi les freins cités un petit peu en avant-propos. Donc nous avons développé un moyen, une méthode d'accompagnement en aller vers qui nous permet aussi d'externaliser les prestations de notre accueil de jour à l'extérieur. Dans le détail et plus concrètement, ça se traduit par 3 pans d'intervention. Donc on ferme des créneaux de notre accueil de jour pour permettre à l'équipe de travailleurs sociaux d'aller à l'extérieur. Elles vont tenir des permanences dans des locaux de nos partenaires, que ce soit une mairie ou un centre communal d'action sociale ou un service du conseil départemental, dans des villes les villages autour de Hazebrouck, de manière à pouvoir rencontrer des femmes qui n'auraient pas la possibilité de se déplacer à Hazebrouck. Et donc, on va aller tenir des permanences proches de chez elles. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les professionnels réalisent également des sensibilisations auprès de nos partenaires, de nos professionnels partenaires, au repérage et à l'orientation des femmes victimes de violences. Il est important pour que des partenaires puissent orienter et en tout cas repérer, il est important qu'ils soient formés et un peu soit peu sensibilisés, et on s'en est fait vraiment une de nos missions particulières en aller vers. Et la troisième étape étant d'aller rencontrer les femmes sur rendez-vous, en dehors de nos lieux de permanence, là où elles se trouvent. Ça peut être également dans des locaux prêtés par nos partenaires, mais ça peut être aussi, quand on est vraiment dans un petit village isolé, dans un parc, ou en marchant, de manière à assurer ce rendez-vous d'écoute, même en extérieur, du coup, avec elles. On s'adapte vraiment aux besoins des femmes, parce qu'il faut quand même qu'on se le dise, une femme sur 10 est victime de violence aujourd'hui, les chiffres le démontrent, et en ruralité également. Donc il est important pour nous d'aller rencontrer toutes les femmes qui viennent à nous, qui en ont besoin ou qui sont orientées par nos partenaires, qui ont repéré les violences qu'elles subissent.
L'objectif est simple, réduire la distance entre la victime et la structure.
Un relais rural, c'est un citoyen qui habite dans un village, une commune, et qui se fait le relais de l'association spécialisée, un peu comme la nôtre finalement, implantée sur sa commune. C'est-à-dire que l'association réunit finalement, c'est une démarche participative et citoyenne, réunit différents citoyens, que ce soit le boulanger, le facteur, des personnes qui sont impliquées dans la vie associative ou culturelle du village, enfin toute personne et tout citoyen qui manifeste l'envie de se constituer en relais rural. Donc ces personnes sont formées par l'association qui porte le dispositif. Elle les réunit régulièrement aussi pour qu'ils ne soient pas isolés. Ils ont ce qu'on appelle un kit, un outillage, c'est-à-dire des plaquettes, des violentomètres, qui est un outil très important aussi dans le repérage des violences, et puis aussi des plaquettes du service. Et ces personnes ont pour mission de repérer les personnes victimes de violences et de les orienter auprès de l'association la plus proche qui pourra les accompagner et répondre à leurs besoins, en tout cas.
Le principe, former des commerçants, sensibiliser des élus locaux, fournir des outils comme le violentomètre et orienter vers les structures adaptées. En zone rurale, les commerçants et professionnels de proximité deviennent des points d'alerte.
Reaching up, she's wishing she was older, dreaming of an Appaloosa, saddled up, riding out of town, dreaming of a Shelby Cobra, digging her tires in the ground, bleeding, ringing in a New Year's mess, unaware of the stain on her dress. It's tactless, it's a test, it's just her ass, it's just her ass. White kitten in the corner, obscene, it really says it all. Milk matches her underwear, get her down, take her off the wall. She dreams of Marlon and Austin, their bodies tangled in a net. She thinks of him every so often, when she feels like a space cadet. She empathizes with your feelings, she's more interested in ceilings. It's tactless, it's a test, it's just a rest, it's just a rest. It's tactless, it's a test, it's just a rest, it's just a rest. Growing pains, we were seeing enemies, spelling out each other's names, whispering inside our red house while the adults were asleep. A guest to us was just for me, a quiet I keep on keeping. Terrest does not belong to you, the horses, cars, and cowboys do. It's tactless, it's a test, it's just a rest, it's just a rest. It's tactless, it's a test, it's just a rest, it's just a rest. It's tactless, it's a test, it's just a rest. It's tactless, it's a test, it's just a rest.
Lorsqu'une femme doit quitter immédiatement son domicile, un hébergement d'urgence est nécessaire. Alors, je suis en compagnie de Maëlle, tu es bénévole dans l'association Un abri qui sauve des vies. Bonjour.
Bonjour à toi.
Est-ce que tu peux d'abord nous présenter qu'est-ce qu'un abri qui sauve des vies ?
Alors, Un abri qui sauve des vies, donc, c'est une association qui est née donc, en 2020 pendant le confinement, donc, qui vient à la base d'un projet étudiant du coup, qui a vraiment pris forme finalement. Donc c'est venu du constat du coup pendant le confinement de l'augmentation en fait des violences conjugales et intrafamiliales. Par exemple, pendant le confinement, le 3919, donc le numéro d'urgence pour les violences faites aux femmes, il a reçu 45 000 appels pendant le confinement. Donc en fait, il y a vraiment une surcharge. Donc il y a vraiment un besoin à ce niveau-là. Donc nous, on prend en charge, on accompagne des personnes donc victimes de violences conjugales, mais aussi intrafamiliales. On recense entre 8 000 et 12 000 femmes par an qui sont victimes de violences conjugales et qui n'ont pas d'hébergement, en fait. Donc qui sont sans solution. Donc ça représente à peu près 40% de femmes. Donc c'est vraiment énorme parce que y a pas de solution pour elles. Donc forcément, c'est compliqué aussi après d'avoir un accompagnement sociales, juridiques, etc. En fait, elles se retrouvent un peu seules. Et donc, on a une hausse continue donc des violences conjugales et intrafamiliales. avec 271 000 victimes de violences conjugales en 2023. Donc on voit qu'il y a vraiment une hausse donc dans les violences, donc d'où l'association du coup Un abri qui sauve des vies, qui a pris de plus en plus d'ampleur, qui a développé de plus en plus d'antennes, etc. Et donc nous, on fonctionne avec le concept d'hébergement citoyen. Donc du coup, c'est la mise à disposition gratuite d'une chambre ou juste d'un espace. Donc ça peut être juste un canapé-lit, donc par nos abritants, donc pour une victime de violence conjugale ou intrafamiliale. Donc n'importe qui peut être abritant, en fait.
Est-ce que tu peux justement nous définir qu'est-ce qu'un abritant ou une abritante, et est-ce que tout le monde peut le devenir? Comment est-ce qu'on fait pour le devenir au sein de l'association?
Alors oui, tout le monde peut être abritant et abritante. Il suffit d'avoir en fait un espace à proposer. Après, il faut que l'espace quand même soit un minimum décent, c'est vérifié aussi. Mais tout le monde peut le devenir, tout le monde peut l'être, et on encourage forcément les gens à se proposer. On n'est pas obligé d'être abritant tout le temps. On peut être abritant, mais voilà, on a tous des contraintes, etc., qui font que on peut parfois ne pas pouvoir abriter quelqu'un. Donc vraiment, c'est pas quelque chose qu'on doit faire tout le temps. Donc les gens sont très libres en fait au niveau de disponibilité.
Et justement, pour être abritant, abritante, comment est-ce qu'on fait sur l'association? Est-ce qu'on remplit un formulaire? Ensuite, on a un entretien, on candidate, et ensuite il y a quelqu'un qui vient vérifier si notre espace il est viable ou pas.
Alors du coup, il faut s'inscrire pour devenir abritant ou abritante. Il faut s'inscrire sur le site d'un abri qui sauve des vies. On va ensuite avoir donc un entretien avec un ou une bénévole. Donc un petit entretien de motivation, on va dire, pour voir si les motivations sont bonnes. En général, il n'y a pas de souci, mais voilà, on vérifie ça quand même. Et ensuite, donc, on va donner lieu donc, à des vérifications donc, de la pièce d'identité, forcément, mais aussi du logement, donc, qui se fait par visio, parce que du coup, tout se fait en distanciel dans l'association, que ce soit le bénévolat, etc. Et on va vérifier donc en visio que le logement il est propre, il peut accueillir la personne, qu'il y a quand même l'espace, qu'il n'y a pas un tout petit espace pour que les personnes elles cohabitent, quoi. Donc on vérifie ça. Ensuite, au niveau de l'hébergement, donc c'est très bien encadré au niveau sécurité, confidentialité, etc. C'est notre rôle aussi en tant que référente aide aux victimes. Une fois que la personne elle est abritée, justement, on va l'accompagner dans ses démarches judiciaires, sociales, l'emploi, le logement et tout. Pour que justement elle puisse rebondir aussi et qu'on la, juste on l'abrite et après on la laisse pas, quoi. Sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt, quoi.
Et alors, si une victime part avec ses enfants, c'est une possibilité, ça arrive, comment ça se passe? Est-ce que pareil, elle peut être recueillie dans un abri de façon temporaire avec ses enfants?
Oui, effectivement, on peut très bien accueillir les enfants aussi. Il n'y a pas de souci. Après, c'est à voir avec les abritants aussi disponibles, parce que ça demande forcément un espace du coup supplémentaire quand même. Mais il n'y a aucun souci pour accueillir les enfants et même les animaux d'ailleurs. Donc il n'y a vraiment aucune restriction sur ça.
D'accord. Donc c'est un hébergement d'urgence parce que la victime vous a déjà contacté en amont, vous avez fait une analyse de la situation. Et en fait, elle va rester un certain temps, donc environ 15 jours, chez un abritant ou une abritante, avant d'être prise en charge par une autre structure de façon plus permanente, si j'ai bien compris.
C'est un peu ça. Après, ça peut être moins ou ça peut être plus. 15 jours, c'est une moyenne. Si une solution est trouvée super rapidement, tant mieux. Ça peut aussi ça peut être un peu plus. Après, c'est une moyenne, mais on souligne quand même que c'est un hébergement qui reste temporaire, quoi. Aussi pour que la personne soit motivée et tout dans ses démarches, parce que faut aussi que la personne puisse rebondir et avancer suite à ça, quoi.
Sur le site, j'ai vu qu'il y avait du coup 625 hébergements d'urgence. Quand on en a discuté avant cette interview, tu m'as dit qu'il y en avait 683, donc un chiffre en hausse. Mmh. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui dénoncent ces violences, plus de victimes qui osent parler, ou alors ce sont, les violences qui augmentent?
Personnellement, je pense qu'il y a un peu les deux aussi. Je pense que malheureusement, il y a quand même une hausse des violences, mais que malgré tout, les personnes en parlent plus, parce qu'on essaye de sensibiliser plus aussi. C'est pas évident de toucher justement les personnes concernées. C'est ce qu'on en parlait la dernière fois, justement. C'est difficile de toucher en fait justement les personnes qui sont concernées, qui auraient besoin de ça. Mais je pense qu'il y a un peu des deux. Après, j'ai pas de certitude.
Et pourquoi est-ce que c'est un peu compliqué ?
Déjà, c'est des personnes qui peuvent être un peu isolées, du coup, donc par leur conjoint. Je mets au masculin ici parce qu'en général, c'est...
Oui, c'est la généralité.
Il y a un certain isolement. Après, je pense qu'il y a tout un tas de choses aussi sociales, la peur de parler, la peur de ne pas être cru, etc. Nous, par exemple, on ne demande pas de dépôt de plainte pour trouver du coup un abritant ou une abritante, alors qu'il y a des hébergements comme ça d'urgence qui peuvent demander parfois qu'il y ait une plainte de déposer. Nous, on ne demande pas ça. Il n'y a pas de condition. En fait, on accueille les personnes du moment qu'elles sont victimes et on n'a pas besoin d'avoir, entre guillemets, une preuve, même si on peut comprendre que certains le demandent, mais voilà. Mais je pense qu'il y a aussi il y a cette peur de ne pas être cru, de ne pas être entendu, la peur aussi du conjoint violent aussi, je pense, et tout ce que ça engendre derrière, tous les enjeux derrière de réinsertion, s'il y a une période où il n'y avait pas forcément d'emploi, parce que la personne, des fois, peut empêcher d'aller travailler la victime, etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça derrière. C'est pas juste quitter son domicile et son conjoint, c'est aussi tout ce qu'il y a derrière, toutes les démarches à faire. Ça peut faire peur aussi, donc voilà.
Je le rappelle, un abri qui sauve des vies, vous retrouverez toutes les informations sur le site internet. Et n'hésitez pas à remplir les formulaires pour devenir abritante. Elles ont besoin de vous. Maëlle, merci.
Merci à toi.
Ce dispositif repose sur des logements mobilisables rapidement, des partenariats locaux, un accompagnement social dès l'arrivée. En ruralité, il compense le manque de structures spécialisées à proximité. À Flixecourt, un centre de santé sexuelle a été créé pour couvrir un territoire entre Amiens et Abbeville. Dans ces centres, les femmes viennent d'abord pour se renseigner sur la contraception, sur l'interruption volontaire de grossesse et sur des questions de couple. Les violences émergent souvent progressivement.
Aujourd'hui, j'accueille Sandra Tillemont. Vous êtes conseillère conjugale et familiale au centre de santé sexuelle de Flixecourt. En quelques mots, quel est votre rôle et le public que vous recevez ?
Alors, une conseillère conjugale et familiale, elle est obligatoire dans un centre de santé sexuelle, déjà. Et pourquoi ? Parce qu'on vient parler de l'amour, on vient parler de l'intime, on vient parler de la contraception, on vient parler de l'interruption volontaire de grossesse. On vient parler vraiment, mais alors, de plein de sujets différents. Et elle accueille, elle écoute, elle accompagne, des fois aussi, entre parler de l'amour et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger, pour... j'aime pas dire combattre, mais pour contre les IST, par exemple. Voilà, donc on vient parler de plein de sujets différents. Et le centre de santé sexuelle, il accueille tout public, des mineurs, des majeurs, des hommes, des femmes... c'est vraiment ouvert à tout public. Alors, c'est vrai qu'on est un petit peu plus centré vers des plus jeunes, mais on a des personnes de 40 ans qui viennent nous rencontrer au centre de santé sexuelle.
La particularité aussi de Flixecourt, c'est que c'est une commune éloignée des grands centres urbains, en tout cas. En quoi ce contexte rural influe sur les problématiques que vous pouvez rencontrer, notamment autour des violences sexistes et sexuelles ?
Alors, en effet, le centre de santé sexuelle de Flixecourt, il a été créé il y a quelques années. Alors, un centre de santé sexuelle, il y en a déjà, je tiens juste à redire, c'est qu'il y en a plusieurs, c'est-à-dire qu'il y en a au sein des départements, du conseil départemental de la Somme, et il y en a dans les centres hospitaliers. Et en fait, le constat qui avait été fait par notamment ma hiérarchie à l'époque, c'était qu'il y avait un centre de santé sexuelle à Abbeville, des centres de santé sexuelle à Amiens, mais rien entre les deux. Et justement, la ruralité, elle est bien ressortie là, c'est-à-dire c'était y a rien entre les deux, et les gens, comment ils font ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un besoin ? Et en effet, il y a un besoin, parce que pas forcément de transport en commun, pas forcément, enfin en tout cas pas si simple que ça, de se rendre à Amiens ou à Abbeville. Et donc, du coup, de mettre un centre de santé sexuelle en plein milieu des deux, et le but, c'était de pouvoir accueillir plus de monde selon les problématiques. La première, c'est qu'en effet, comme je l'ai dit, on vient parler de l'amour, on vient parler de l'intime, on vient parler de la vie, on vient parler de la contraception parce qu'on choisit ou pas d'avoir un bébé. Et en même temps, en parlant de l'amour et en parlant de l'intime, évidemment, on peut arriver malheureusement aussi à des situations beaucoup moins sympathiques, beaucoup moins belles de la vie, qui sont des violences, en effet. Donc, c'est pas rare qu'on vienne nous parler de violences dans les relations au sein du centre de santé sexuelle. Et le fait que ce soit Flic Secours, donc un petit peu entre deux grandes villes, parce qu'après, donc je parlais d'Amiens, je parlais d'Abbeville, il y a un centre de santé sexuelle aussi à Doulan, mais on voit, voilà, ça fait un triangle, en fait, et ce triangle-là, ben, où on va ? Est-ce qu'on peut se déplacer à Amiens ? Est-ce qu'on peut se déplacer ? Des fois, Flic Secours, c'est pas pratique pour les gens. Ils vont nous dire, c'est Amiens, par exemple. Donc, il faut pouvoir développer des centres qui soient le plus proche et le plus pratique pour la population. C'est comme ça que le Flic Secours est arrivé.
Elle explique que les violences sexuelles sont fréquemment révélées avant les violences physiques. Le centre assure alors un rôle d'accompagnement et d'orientation.
C'est vrai que les violences sexuelles peuvent être amenées par les jeunes femmes parce que justement, on vient parler du consentement, on vient parler la relation, est-ce qu'elle a été agréable, est-ce que vous étiez d'accord, est-ce que vous étiez à l'aise, est-ce que vous étiez dans la communication, par exemple, avec votre partenaire. Et puis, parfois, c'est là où en effet que ça ressort que non, pas vraiment. On a dit oui pour lui faire plaisir, ou non, finalement, il m'a fait mal, il ne s'est pas arrêté. Donc, les violences sexuelles, c'est les premières, on va dire, souvent, c'est notre porte d'entrée, je vais dire un peu. Et après, là, d'autres formes de violences peuvent aussi être évoquées dans les entretiens, je fais attention à comment je m'habille, donc on est sur le corps, hein. Encore une fois, quand on parle du corps, ça va être comment je m'habille, ça va être je peux pas sortir, des choses comme ça. C'est-à-dire d'autres formes de violences vont arriver, des violences physiques, des violences verbales, des violences psychologiques. Mais on va dire, dans un premier temps, c'est peut-être un peu plus les violences sexuelles, mais on vient parler, on ouvre encore une fois une porte, en fait. C'est une porte d'entrée. Dans l'entretien, quand ça revient, quand ça vient d'être parlé, on essaie de mettre des mots. Déjà, tout simplement, des fois, c'est pas facile, en effet. C'est des fois les premières fois où elles viennent évoquer un viol, elles viennent à évoquer un abus sexuel. Donc déjà, on prend le temps. C'est vraiment une possibilité de se poser, de réfléchir, de prendre le temps de réceptionner l'émotion qu'on reçoit, de le dire à quelqu'un qu'on connaît des fois pour la première fois. Ou pas, parce qu'on peut se voir plusieurs fois selon la demande. Et donc déjà, ce temps-là, il est important, parce que c'est aussi la mise en confiance. Et puis, ne pas aller trop vite, parce que, je vais dire comme ça, on peut très vite dire il faut aller déposer plainte, il faut vous protéger. Alors, c'est pas qu'on ne va pas le dire, mais on va prendre le temps de voir justement comment elle se situe par rapport à ça. Parce que des fois, il y a des dames qui vont dire oui, je suis abusée, ou j'ai été violée, ou je suis encore violée, et elle s'écroule. Donc c'est prendre ce temps-là. Après, on travaille, comme je vous dis, en relation avec la sage-femme aussi, donc on en discute aussi comment on peut l'accompagner. Et en fait, le centre de santé sexuelle de Flic Secours, il est au sein de la MDSI du département, donc les maisons départementales de solidarité et de l'insertion, où il y a d'autres collègues, en fait, des assistantes sociales, des puéricultrices, des référentes insertion, enfin, beaucoup de corps de métiers différents. Et aussi au département, qui travaille dans les gendarmeries, on a des intervenantes sociales gendarmerie, et donc on peut travailler en relation avec elles aussi. Donc ça m'est arrivé, par exemple, dans un entretien, quand une jeune femme m'évoque en effet une situation de viol, d'abus, de harcèlement, d'être en lien avec une collègue en disant « Tiens, je peux vous donner un numéro concret d'une personne qui pourrait vous accompagner dans la plainte si vous en êtes prête. » Alors des fois, elles vont dire « Oh non, c'est pas possible, je peux pas, j'ai besoin de temps, justement. » Donc dans ces cas-là, on va les revoir, on va les accompagner dans ce cheminement, en fait, de ce qu'elles ont envie, de comment elles peuvent le mettre en place, du partenaire. Des fois, on les accompagne voir le partenaire pour que ce soit plus facile pour elle, en fait. Voilà.
C'était une maison douce, une maison de bon aloi, juste ce qu'il faut de mousse répartie aux bons endroits, assez de murs pour connaître une chaleur bien à soi, et ce qu'il faut de fenêtres pour regarder sans effroi. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Elle ouvrait parfois sa porte à ceux qu'elle choisissait. La serrure n'est pas forte, maison, tu n'as pas de clé. Mais avec sa confiance, jamais elle ne pensa qu'on pût user de violence pour pénétrer sous son toit. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Advint qu'un jour de malchance, une bande s'approcha. On sonne à la porte, on lance des coups de pied, ça et là. À plusieurs, on s'encourage, on prétend qu'elle ouvrira. Et commence le saccage, la porte, on l'enfoncera. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit.
Sauvagement, ils pénètrent, dévastant tout devant eux. Ils obligent les fenêtres à s'ouvrir devant le feu. Avec leurs couteaux, ils gravent des insultes sur les murs et s'en vont faisant les braves quand tout n'est plus que blessure. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. La maison, depuis ce crime, n'a plus d'âme ni de nom. Mais elle n'est pas victime, c'est de sa faute, dit-on. Il paraît qu'elle a fait preuve d'un peu de coquetterie avec sa toiture neuve et son jardin bien fleuri. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. D'ailleurs, une maison sage ne reste pas isolée. Celles qui sont au village se font toujours respecter. Quand on n'a pas de serrure, il faut avoir un gardien. C'est chercher les aventures que de fleurir son jardin. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Si vous passez par la route et si vous avez du cœur, vous en pleurerez sans doute, c'est l'image du malheur. Mais rien, pas même vos larmes, ne lui portera secours. Elle est loin de ses alarmes, elle est fermée pour toujours. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Si j'ai raconté l'histoire de la maison violentée, c'est pas pour qu'on puisse croire qu'il suffit de s'indigner. Il faut que cela s'arrête, on doit pouvoir vivre en paix, même en ouvrant sa fenêtre, même en n'ayant pas de clé. Non, non, je n'invente pas. Moi je dis ce que je dois.
Sandra Tillemant a travaillé 14 ans en gendarmerie.
Mon ancienne vie, je vais dire comme ça, me sert maintenant aussi dans les centres de santé sexuelle. Ça ne veut pas dire que les autres collègues CCF n'ont pas de sensibilité, bien au contraire. Mais en effet, j'allais dire, j'ai tout un passé en gendarmerie avec toute une procédure que je connais quand même un peu aussi. Je sais comment ça se passe. Donc ça m'arrive, oui, ça peut m'arriver d'en parler un petit peu avec elle, d'essayer de lever les freins, on va dire comme ça, qui peuvent les empêcher d'aller vers une procédure, ou même, parce que ce n'est pas forcément aussi une procédure pour certaines, de les accompagner vraiment différemment avec mon ancien parcours. En effet. Mais là, c'est vrai que dans un centre de santé sexuelle, je m'arrête à ma fonction de conseillère conjugale et familiale. Et donc, je vais orienter, comme je disais, vers des collègues, des intervenantes sociales en gendarmerie.
Donc, face à toutes ces difficultés qu'on a pu soulever précédemment, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui en milieu rural ?
Alors, ce qui fonctionne, c'est qu'ils s'en saisissent de ce lieu-là. C'est-à-dire qu'on a remarqué qu'avec le temps, on a de plus en plus de personnes qui viennent nous rencontrer. Le bouche à oreille fonctionne pas trop mal quand même, et que cette proximité, elle est vraiment importante. C'est-à-dire que ceux qui sont venus une première fois, généralement, ils reviennent. En fait. Alors, les collègues sages-femmes, en plus, elles accompagnent aussi dans la grossesse. Donc, des fois, on les revoit en fait, après pour le moyen de contraception. Enfin, il y a vraiment une continuité. Et c'est vraiment une force dans un lieu où, en effet, les femmes vont nous dire... c'est autrement aller à Amiens ou à Abbeville, il n'y a rien d'autre. Donc ouais, on est content que de pouvoir se poser. Là, depuis septembre 2025, au sein des départements de la Somme, au-delà des centres hospitaliers qui font déjà des IVG médicamenteuses et instrumentales, on peut faire des IVG médicamenteuses pour les majeurs. Et donc, par exemple, donc ça a commencé début octobre, on a déjà eu sur Flic Secours, donc un centre, encore une fois rural, on a déjà eu 3-4 IVG en fait, sur le secteur. Les femmes s'en sont totalement saisies en disant oui, on préfère venir là, en termes de disponibilité, en termes de lieu, c'est plus simple pour nous de venir là que d'aller dans une grande ville, de se garer, enfin, c'est stressant, c'est angoissant. Là, on a de la proximité, ils nous connaissent des fois aussi, donc c'est plus simple pour elles en fait.
Dans les territoires ruraux, le travail en réseau est essentiel. Les centres de santé, les intervenantes sociales, les associations spécialisées et les services départementaux, aucun dispositif ne fonctionne isolément. Le 3919 est un numéro gratuit, anonyme et disponible 24 heures sur 24.
La majorité des associations qui portent ces dispositifs appartiennent à la Fédération nationale Solidarité Femmes. Je pense qu'il faudrait plutôt se rapprocher de la FNSF par le biais peut-être du 3919 qui est le numéro national. national, de manière à être réaiguillés après vers les associations qui portent ces dispositifs les plus proches de leur lieu d'habitation. C'est important de rappeler justement ce numéro national, puisque peut-être que parmi les auditrices, nous avons des femmes victimes de violences. Et l'idée étant peut-être de rappeler que le 3919, c'est le numéro national d'écoute pour les femmes victimes de violences, gratuit, anonyme, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et ce numéro, après, réoriente vers les structures les plus proches du lieu d'habitation des femmes qui les contactent. Je pense que ça, c'est important peut-être de le rappeler.
Les violences conjugales en milieu rural représentent des contraintes spécifiques. Isolement géographique, dépendance matérielle, visibilité sociale, éloignement des services spécialisés. Pour y répondre, plusieurs dispositifs existent et on les a entendus. Des structures d'hébergement, des permanences délocalisées, des relais ruraux, des centres de santé sexuelle, des hébergements d'urgence et le numéro d'écoute, le 3919. L'enjeu reste la visibilité de ces dispositifs et leur accessibilité. Cet épisode a été réalisé par Colline Fauvé avec la participation d'Aline Lafoy et d'Inès De Winter pour Radio Campus Amiens.
Non, j'ai pas brûlé mes draps, même si c'est ce que je voulais. Non, je les ai pas brûlés, je les ai juste lavés 3 ou 4 fois d'affilée pour être sûre. Non, j'ai pas voulu regarder dans le miroir et constater qu'il n'y avait plus rien dans mes yeux, qu'il était parti avec eux et ma dignité qui collait sous sa chaussure. Certains veulent mourir dans leur lit, moi je l'ai fait, je recommande pas l'expérience. Les yeux hagards, on s'accroche à l'oreiller comme à une dernière chance. Et je personne entre mes bras, laissez-moi le temps de me retrouver. Juste laissez-moi. Je déteste sortir dans la rue et voir que le monde continue, qu'il a pas pied, il est comme moi, est insensible au désarroi d'une âme parmi les milliers qui ont été là. Certains veulent mourir dans leur lit, moi je l'ai fait, je recommande pas l'expérience. Les yeux hagards, on s'accroche à l'oreiller.